possible. Il y a comme un goût de dans le cœur de mes soeurs.
Tout pété, tout démonté, tout brûlé.
Sortez les briquets,
sortez les briquets.
Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce qu'on appelle la lutte.
Bonsoir, Les Mureaux des Oreilles est une émission sur la prison pour les personnes détenues en prison, particulièrement les personnes incarcérées actuellement dans la maison d'arrêt de Vars. C'est une émission contre les prisons et vous êtes à l'écoute de Radio Kaléidoscope sur 97 FM. Vous pouvez retrouver Les Murs donc tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 19h à 20h. Il est possible de nous écrire pour tout courrier, soit par voie électronique, mais je redonnerai ces contacts en fin d'émission, sinon par voie postale à la boîte postale 422 38 018 Grenoble CEDEX, bien sûr en précisant Les Murs ont des oreilles, Radio Kaléidoscope. Alors ce soir on a différents points qui seront abordés, donc particulièrement un point sur la situation dans les nouveaux établissements pénitentiaires, particulièrement celui de Condé-sur-Sarthe. Un petit point sur la mutinerie, ce corollaire de la prison, pas que, mais particulièrement de la prison. Et puis, on terminera l'émission certainement sur le portable en prison à travers notamment des extraits des chroniques de Youve.
Donc, je vais commencer sur la question des prisons modernes, et notamment celle de Condé-sur-Sarthe. Donc, depuis quelques temps, la prison ultra sécurisée de Condé-sur-Sarthe fait beaucoup parler d'elle. Les masses médias détaillent le moindre incident qui a lieu. À hauteur de 20 agressions en 7 mois, il est difficile de dire si elles sont réellement plus nombreuses ou plus graves que dans les autres prisons. Mais elles sont en tout cas révélatrices des tensions qui règnent dans celle-ci. Si on répertorie les événements cités par les journaux, cela donne le 19 septembre, lors d'un atelier cuisine, un prisonnier jette des aliments sur un maton. Quand les renforts arrivent, parce que c'était vraiment nécessaire dans ce genre de situation, il les accueille à l'huile bouillante. Le 16 décembre, des prisonniers se sont révoltés, réclamant de pouvoir circuler librement d'une cellule à l'autre, comme l'usage le veut en maison centrale. Le 25 décembre, deux matons sont blessés suite à un refus d'un prisonnier d'être fouillé. Le 30 décembre, il y a une prise d'otage pour réclamer un transfert vers un autre établissement pénitentiaire. Le 2 janvier, agression d'un maton, puis plus tard, des prisonniers refusent de réintégrer leur cellule. Les jours précédents, il y aurait eu également des refus de réintégrer leurs cellules. Et le 10 janvier, agression du directeur adjoint lors d'une fouille des cellules. Donc évidemment, les surveillants ont manifesté devant la prison pour dénoncer leurs conditions de travail. Évidemment, les syndicats ont réclamé plus de moyens. Et surtout, évidemment, les médias n'ont donné la parole qu'aux matons. Donc je vais vous épargner les discours vomitifs entendus ça et là, allant de considérer ces derniers éléments comme événements, pardon, comme des mouvements d'humeur, ou à présenter la prison de Condé-sur-Sarthe comme la poubelle de l'administration pénitentiaire. Donc je rappelle quand même que dans les poubelles, on y met des ordures, donc autant dire que la métaphore est vraiment très très classe. Au milieu de ces jérémiades de matons, quelques détails sur cette prison sont distillés au fil des articles, qui, étrangement, ne semblent interpeller personne. Ainsi, cette prison ultra sécurisée, ouverte en grande pompe en mai 2013, avec 204 places en maison centrale, est comparée à Alcatraz. Ou encore, pour reprendre les propos du secrétaire général adjoint de la CGT pénitentiaire Grand Ouest, cette prison a été pensée dans un but tout sécuritaire, avec beaucoup moins d'humains que dans les autres. Elle a été conçue pour que les contacts avec les surveillants soient réduits au minimum. Il y a beaucoup de béton, un minimum de fenêtres et de lumière extérieure afin d'éviter toute évasion. Plus personne ne se cache du fait que cette prison est faite pour recadrer les prisonniers, comme l'explique ce même secrétaire syndical. Et plus précisément, pour recadrer ceux qui sont considérés par l'administration pénitentiaire comme étant, dixit, les plus durs, c'est-à-dire ceux qui ont agressé des surveillants ailleurs ou ont tenté de s'évader. Donc ça, c'est également les propos d'un autre syndicaliste. Donc pour mémoire quand même, Christophe Kidor a été transféré dans cette prison assez récemment, après avoir envoyé un courrier à la garde des Sceaux où il demandait que sa situation soit réexaminée et notamment qu'on puisse envisager une confusion de ses peines et donc du coup qu'on puisse fixer une date de sortie pour lui, auquel cas il retendrait de s'évader si on continuait à le maintenir dans une peine perpétuelle. Donc pour clore cette partie parole de nos ennemis, je laisse le dernier mot à un autre syndicaliste qui prouve que de la bêtise peut germer de grandes vérités. Donc il dit, on a une infrastructure ultra sécuritaire, ils ne supportent pas et veulent tout faire pour partir. Un détenu libérable en 2040, prendre 1 ou 2 ans pour agression, il s'en moque un peu. Donc sans blague, aux dernières nouvelles, quand on essaye d'enterrer vivant un individu, il paraît assez logique qu'il essaye de s'évader. Et on aurait tendance à appeler ça l'instinct de survie. Et personnellement, c'est le jour où les individus arrêteront de le faire que je pense qu'il faudra commencer à s'inquiéter. Donc je vais vous épargner mon éternel laïus concernant les matons sur le fait d'avoir fait un choix de métier et d'en assumer les conséquences ou d'en changer. Non, là, ce qui m'intéresserait, sur lequel j'aimerais revenir, c'est sur la question de la prison elle-même. On parle d'une de ces prisons modernes dont des prisonniers ont déjà dénoncé leur aspect aseptisé et inhumain, comme dernièrement dans les tôles de Réau, Nantes ou Annelin. Donc pour un peu illustrer, voilà deux témoignages. Donc le premier est assez ancien, il concerne la maison d'arrêt de Corba qui a été la première prison moderne construite. Et donc voilà ce qu'en témoignait un sortant de prison.
Oui, donc pour préciser, Corba, donc dans la banlieue de Lyon, donc faisait suite à la fermeture de la prison de Saint-Joseph.
Saint-Paul, Saint-Joseph et Montluc.
Voilà, les trois prisons et qui étaient des établissements datés. Et voici un petit peu le témoignage de ce prisonnier de passage donc à Corba. En arrivant à Corba, j'ai d'abord apprécié de me retrouver dans une petite pièce hygiénique, avec une porte insonorisée et une douche que je pouvais prendre quand je voulais. C'est après que j'ai réalisé. Cette porte m'enfermait un peu plus. Vous pouvez taper dedans, personne ne vous entend. Et quand vous sortez de cellule, plus un espace n'échappe aux caméras. Dans cette prison, toutes les portes s'ouvrent sur commande, à distance. Tout est automatique. Vous ne voyez presque plus de surveillants. Vous passez devant des portes de contrôle aux vitres sans teint. Eux vous voient. Vous, vous ne les voyez pas. Il y a des interphones, ils ne se déplacent plus. Moi, j'avais de la chance. J'étais au deuxième étage. En regardant tout droit, je voyais les coteaux du Lyonnais. Ils ont installé ce qu'ils appellent les caillebotis, des grilles fixées derrière les barreaux pour empêcher de s'envoyer des trucs d'une cellule à l'autre. C'est des grilles tellement profondes qu'elles vous bougent complètement la vue vers les côtés et vers le haut et vers le bas, comme des œillères. Vous ne pouvez plus regarder que tout droit. Donc ceux qui sont au rez-de-chaussée et au premier, ils ne voient plus que le mur. Dans cette prison, tout est immense. Les mouvements prennent un temps fou. Pour aller au parloir, il faut passer 2 grilles et 10aine de portes. Il faut 20aine de minutes. Tout commence en retard. Les cours, les activités. Alors ils ont réduit les mouvements. Il a fallu choisir entre parloir, activité ou promenade. Finalement, on a quitté un lieu où l'humanité survivait pour arriver dans un lieu où il n'y en a plus. À Saint-Joseph, c'était vieux et sale. Il y avait des rats, des souris, des pigeons. Mais au moins, c'était vivant. On est arrivé dans une prison propre, sans rats, sans cafards. Mais au bout de quelques jours, derrière ma porte insonorisée, j'ai eu l'impression de devenir fou. J'ai compris qu'à Saint-Joseph, les rats étaient mes amis.
Et donc on va enchaîner avec le témoignage de Xavier, qui a été publié par L'Envolée et qui donc date d'octobre 2012 et qui concerne le CP, le centre pénitentiaire, pardon, d'Annelin.
Ces prisons de la troisième génération, plus déshumanisantes que les autres, ne sont que des usines du crime, des fabriques de la récidive. Et ceux qui en ont la charge sont les orfèvres de la désocialisation et de l'aggravation pénale. Accomplir ou achever une sentence dans de telles circonstances revient à régurgiter à l'extérieur ce qui a été préalablement infligé intramuros. Dès lors, se dégager de l'emprise délétère des lieux, de par l'insécurité régnante, devient un impératif de survie. Voici plus d'un an que je croupis dans cette ratière, et j'ai eu à y voir et à y subir ce que je n'ai jamais constaté ni enduré par ailleurs pendant plus d'une décennie recluse. Ces grands utopistes technocrates pensent pouvoir gérer de lourds profils sur la base d'une jachère intellectuelle et d'une friche physique, tant les activités de toute nature sont portion congrue. Je rétorquerai que je ne suis pas disposé à tout accepter du seul fait d'être incarcéré. Ces pervers ruinent tous les réflexes de sociabilité recouvrés par un long travail personnel, opéré sur soi-même au fil du temps. Ils ne font que ravager les espoirs et instiller un sentiment haineux, salvateur, car moteur de survie.
Voilà, donc ce sont des environnements de béton et de grilles. avec l'usage de vitres sans teint et le déverrouillage des portes qui est fait à distance. Les cellules sont construites sans vis-à-vis et sans moyen de communiquer de l'une à l'autre. Et l'organisation des flux est conçue pour éviter de la rencontre des prisonniers. Donc ça, c'est l'organisation de toutes les nouvelles prisons. Après, à la tôle de Condé-sur-Sarthe, en plus, donc les quartiers sont prévus pour 17 personnes. Donc, comme le présente le directeur de la tôle, ce sont des petits groupes qu'ils appellent de vie, de manière à circonscrire les éléments, les événements, notamment s'ils sont à caractère collectif, donc à les circonscrire plus facilement. Même s'ils prétendent vouloir donc donner aux prisonniers un projet de vie, leur donner une projection sur la sortie, c'est surtout un tombeau pour les insoumis. S'il est concrètement difficile de comparer cette tôle donc de Condé-sur-Sarthe au Supermax américaine, cette maison centrale fonctionne clairement sur le principe de l'isolement cellulaire, c'est-à-dire des personnes maintenues seules en cellule pour des durées allant de 22 heures à 24 heures par jour, une surveillance continue et l'impossibilité de communiquer avec d'autres personnes à son gré. L'isolement cellulaire a toujours eu une fonction punitive et le but est de détruire l'individu. De nombreuses études ont été faites sur ce régime de détention et toutes ont montré de graves conséquences physiques et psychiques sur les individus. Donc les symptômes physiques les plus courants sont les palpitations, l'insomnie, les douleurs torsales et autres douleurs articulaires, la détérioration de la vue, la perte d'appétit et donc de poids, la léthargie, les tremblements, les réactions cutanées. Sur les symptômes psychiques, donc dans les grandes lignes, on va pas faire non plus une topologie dite psychiatrique, on n'est pas des experts. Donc les symptômes psychiques sont généralement l'angoisse, la dépression, la colère, les troubles cognitifs allant de la perte de la concentration, de la mémoire à la confusion, les modifications de la perception, de l'hypersensibilité ou des hallucinations, et des états où les individus peuvent complètement sortir de la réalité. Et pour finir cette charmante liste, l'automutilation et le suicide. Donc au-delà de l'enfermement en soi, les facteurs principaux qui causent ces états sont l'isolement social, le manque de stimulation, la perte de maîtrise de quasiment tous les aspects de la vie quotidienne. Donc en 2008, Ian Robbins a expérimenté les effets de l'isolement sur le cerveau et le comportement humain. Au-delà des conséquences évoquées précédemment, il a montré que ces cobayes humains étaient devenus beaucoup plus vulnérables à la sujection, en d'autres termes plus malléables et plus soumis. Donc on peut constater avec une certaine satisfaction que cela n'a pas encore fonctionné sur les prisonniers de Condé-sur-Sarthe, et on espère que ça continuera et on leur adresse notre plus franche solidarité.
Alors, donc on va maintenant écouter un morceau de musique. C'est un extrait de la bande-son d'Utopia.
De la série Utopia.
Thank you.
Du coup, voilà. Après, pour l'instant, on n'a pas encore eu de témoignages directs concernant des personnes qui sont incarcérées à Condé-sur-Sarthe. On a, du coup, c'est dur de pouvoir en parler autrement que justement pour les conditions de détention, qu'en faisant le lien avec d'autres prisons modernes. Après, au-delà de ça, il n'empêche que les techniques d'isolement sont largement utilisées par les prisons en France et ailleurs, justement comme je l'expliquais, pour mater les prisonniers qui posent problème à l'administration pénitentiaire. On a quand même eu à plusieurs fois à faire des campagnes. Il y a eu des campagnes contre l'isolement. Il y a eu des dénonciations d'isolement spécifique de tel ou tel prisonnier. Se souvenir aussi de l'isolement particulier qui faisait partie du dispositif ICAR, que devait subir Nino Ferrara après la tentative d'évasion de Fresnes, où un quartier entier avait été bloqué pour lui, avec pour seul voisin de cellule des matons et des changements réguliers de cellules, du harcèlement, des brimades, même des douches. Il était accompagné de matons armés où il ne voyait personne, il ne croisait personne. Les parloirs, il les faisait en hygiaphone, sachant que c'est pas lui qui décidait les jours de parloir, c'était l'administration pénitentiaire. Voilà des exemples d'expériences d'isolement toujours plus dur et toujours plus déshumanisant. L'État français, quelle que soit son orientation politique, quelle que soit elle soit de gauche ou de droite, n'a aucun souci à le pratiquer. C'était censé être des prisons plus humaines, c'est pas ce qu'en disent les prisonniers. Concernant celle de Condé-sur-Sarthe, sachant qu'il y en aura une seconde qui va être construite, voilà, fait beaucoup parler d'elle. Les matons dénoncent le laxisme, soi-disant de la garde des Sceaux, soi-disant de la direction de la prison. On a un peu du mal à y croire, surtout que quand les ERIS interviennent dans les prisons, on peut pas dire en général que ils sont réputés pour leurs câlins, leurs bisous et leurs petits accompagnements, on va dire, éducatifs. J'ai perdu ce que je voulais dire.
Mais il est vrai que bon, ces nouveaux centres pénitentiaires sont vraiment décrits comme étant les anciens QHS. Hein. Il est vrai qu'on axiste, je pense que la prison n'a jamais été un milieu progressiste, mais malgré tout, on réussit quand même dans un milieu non progressiste à encore reculer et à revenir à une situation qui a été dénoncée très largement dans les années 70.
Et qui a été abolie, les QHS ont été abolis.
Au tout début des années 80, je crois, et donc depuis, on assiste quand même à la remise en place. Donc un mouvement, un durcissement vraiment qui s'accroît d'un point de vue général, une société de plus en plus répressive et faut pas oublier non plus qu'au sein même de la prison, l'isolement n'est jamais absolu puisqu'il existe toujours une peine qui est celle du mitard, qui est aussi une forme d'isolement et qui a poussé encore un peu plus loin. On réussit donc avec la prison quand même à avoir toutes les gradations possibles de l'isolement.
Et de la punition, parce que du coup c'est vraiment toujours cette question de punir toujours plus, de punir dans la punition. Enfin, après, on peut aller très loin dans ces logiques-là. Après, pour revenir, moi, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est que on en parle vraiment beaucoup de cette prison dans les médias. Là, j'ai lu encore des articles. Quelle que soit d'ailleurs les orientations politiques des médias, la façon d'en parler est toujours la même et assez odieuse. Après, là, du coup, commence à se poser la question dans les articles de finalement, cette prison, c'était peut-être une erreur. Bah oui, c'est très bien. Vous avez juste dépensé des milliards pour la construire. Maintenant qu'elle est là, de toute façon, clairement, on va pas se leurrer, elle va être utilisée. Après, à quoi elle servira? Qu'est-ce que, soi-disant, peut-être, parce que les matons demandent une réforme pénale des états généraux de la prison, etc., etc. Surtout, ils veulent revenir sur les soi-disant quelques aménagements qu'il y a eu à l'intérieur, sachant qu'on peut pas dire non plus que c'était la folie furieuse. L'idéal, c'est que cette prison, comme les autres, n'existe pas. Mais bon, ça, aux dernières nouvelles, on n'en est pas encore là.
Oui, tout à fait.
Ça, c'était la conclusion.
Une conclusion. D'ailleurs, pour vaincre l'isolement, les émissions de radio donc qui sont proposées dans la région grenobloise, donc ou ailleurs si vous êtes de passage sur Grenoble. Il existe d'autres émissions à travers la France, dans toutes les grandes villes proches de centres de détention, de maisons d'arrêt. Ces émissions de radio ont vocation à vaincre cette à briser cet isolement, que ça soit l'isolement des personnes détenues, que ça soit l'isolement des proches qui vivent aussi un isolement social à travers la situation que peut vivre leurs proches incarcérés. Et donc n'hésitez pas à nous écrire pour témoigner, pour renouer des liens. Donc je vous rappelle que nous sommes contactables donc à l'adresse suivante: les Murons des Oreilles sur Radio Kalidoscope, boîte postale 422-38018 Grenoble CEDEX. Et les personnes qui privilégient la communication électronique peuvent nous écrire par mail à l'adresse suivante: les Murs, hein, LESMURS, @riseup.net, RISEUP.net. Et nous allons maintenant poursuivre avec donc quelques petites minutes sur justement un retour sur la mutinerie. Alors pas tellement sur les mutineries, des exemples de mutinerie, mais peut-être plus sur la signification de la mutinerie dans la prison. Il est toujours important de ne pas oublier ce que peut signifier la prison et tout ce qui va avec. Alors les mutineries, si on reprend la définition du dictionnaire de grand-papa, c'est le Larousse, c'est un acte de rébellion, une révolte ouverte contre l'autorité. Et ces mutineries ont lieu dans tous les lieux ou dans les institutions qui sont régies par la discipline. Et donc on va retrouver des mutineries, que ça soit donc bien sûr dans les prisons et principalement aussi à l'armée, même si des mutineries ont pu avoir lieu dans des établissements comme des établissements scolaires, mais c'est beaucoup plus rare. Elles ont bien sûr plutôt souvent lieu elles apparaissent dans des lieux clos, hein, où de la discipline s'exerce de la manière la plus dure, que ça soit des camps, des prisons, bien sûr des bateaux. Et il y a des exemples de mutineries célèbres, hein, à la fois très anecdotiques, comme la mutinerie du Bounty en 1789. Hein, vous avez peut-être vu ce film. Et puis, suite à d'autres mutineries, la mutinerie des marins du cuirassé Potemkin en 1905, qui lançait la première révolution russe. On parle aussi beaucoup des mutineries de 1917, hein, sur le front français pendant la Première Guerre mondiale, qui donna lieu à de multiples exécutions. Plus proche de nous et plus en relation avec la prison, on en avait parlé il y a presque maintenant plusieurs années, la mutinerie d'Attica, célèbre prison aux États-Unis en 71, puisque c'était une mutinerie qui a été menée par des prisonniers noirs à l'époque de l'émergence du Black Panther. Et elle donna lieu à une très forte répression avec des morts du côté des forces de l'ordre et des morts du côté des prisonniers. Donc ce sont que des exemples, bien sûr, on se fait le relais des actes de mutinerie et de rébellion qui se produisent encore maintenant dans les prisons, car bien sûr, c'est d'abord, à travers les mutineries, un acte de refus d'obéissance, hein, face à une institution disciplinaire qu'il faut voir est souvent vécue comme violente, injuste et opprimante. Alors, je crois que la notion de violence est importante, puisque c'est d'abord, la mutinerie, un acte de refus de la violence exercée sur soi, que ça soit en tant qu'individu ou soit en tant que groupe. Et la mutinerie, on prête souvent aux mutins on les accuse de violence quand finalement la première violence est certainement celle qui a causé leur mutinerie. Et alors ces mutineries, elles n'apparaissent pas tout le temps, hein, ça se saurait, mais elles apparaissent quand se conjuguent souvent différents facteurs, hein, qui sont d'une part la sensation de cette menace réelle à venir ou présente, hein, ou exécutée, donc qui s'exerce sur les personnes détenues dans l'institution, hein, que ça soit de manière forcée ou de manière plus ou moins libre. C'est un moment aussi où on sent l'institution comme fragile, hein, et c'est un moment où on a des ressources pour se mutiner. Hein. Alors c'est pas obligatoirement les barreaux de chaises qu'on prend pour pouvoir les casser sur la tête du premier venu. C'est des ressources au sens de la possibilité d'une organisation, une possibilité de réaction. Donc c'est des ressources aussi bien individuelles, psychologiques, que des ressources matérielles. Et donc, il y a vraiment cette notion, donc pour vraiment le point, c'est quand même le point, lorsqu'on la mutinerie, donc les études, hein, menées par des universitaires montrent bien que, quel que soit finalement le contexte dans lequel ça se produit, ce sont des actes lorsque l'on se sent en danger. lorsqu'on sait qu'on va souffrir si on ne fait rien. Et la mutinerie, c'est un acte réellement de vie, c'est un acte qui vital de résistance face à une menace qui s'exerce sur nous. Alors les mutineries, bien sûr, peuvent être collectives, elles peuvent être aussi individuelles, elles sont collectives quand il s'est construit un groupe auquel on se sent appartenir. C'est à un moment donné, on se sent bénéficier de ressources qui permettent de s'organiser, on a des ressources pour communiquer. On s'identifie à un groupe, on a envie de faire quelque chose avec ce groupe. C'est peut-être certainement un stade certainement intéressant dans l'organisation d'une résistance, et c'est aussi un stade qui est certainement cassé le plus rapidement possible par l'institution disciplinaire, de façon à éviter justement que ces forces collectives émergent. Il y a aussi bien sûr des stratégies individuelles lorsqu'on n'a plus le choix. Elles sont bien plus dures à mettre en place, elles dépendent beaucoup de la personnalité des individus. Elles prennent des formes très variées et elles ont bien sûr bien moins d'impact. Elles ont quand même le mérite d'exister et donc de traduire la résistance à cette discipline et à cette institution. Alors, fondamentalement, donc les mutineries, faut bien voir qu'elles ont rarement d'abord des revendications politiques, que ça soit des mutineries militaires ou des mutineries de prisonniers, c'est rarement tourné vers des revendications politiques. On ne sort pas l'étendard et on le plante au sommet des toits de la prison pour revendiquer un monde meilleur. On le tourne d'abord vers l'amélioration du quotidien, de ce qui fait menace, de ce qui fait peur, et on le tourne vers le changement des conditions disciplinaires. Pourtant, fondamentalement, la mutinerie, c'est un acte politique. C'est un acte politique car lorsqu'on se mutine, on se mutine contre ces institutions disciplinaires. Ces institutions disciplinaires, ce sont les instruments du pouvoir de l'État. L'armée est un instrument de pouvoir de l'État. La prison est un instrument du pouvoir de l'État. Se mutiner, c'est donc un acte contre l'État. Et ça, si le mutin... La mutine ne l'a peut-être pas perçue, l'État, lui, le sait, et c'est certainement pour ça qu'il y a une extrêmement forte répression qui s'exerce avec le discours qui va avec. On vient d'en parler un petit peu indirectement sur ce qui s'est passé à Condé-sur-Sarthe. L'État, lui, le sait, et sait que la menace se tourne directement vers lui. C'est directement ses fondements, sa domination, le principe de sa domination qui est attaqué. D'où la très forte répression. Alors pour finir un petit peu sur ces mutineries, derrière les mutineries se joue finalement quelque chose de beaucoup plus large, peut-être que l'État, même si l'État a été certainement ce qui a permis de mieux le mettre en place, et c'est le rapport à l'obéissance, et c'est l'obéissance. C'est le pourquoi doit-on obéir, pourquoi doit-on accepter une règle commune. Alors bien sûr, bon, on va pas rentrer trop dans le détail, surtout que j'en ai pas du tout les compétences, mais bon, obéir, ça prend des formes très variées. Des fois, c'est une obéissance un petit peu acceptée. Bon, pourquoi ? Parce que ça nous paraît être le moins pire dans une situation donnée. C'est là où on se dit, bon, on va accepter ce qui est dit, la règle, en espérant que ça aille vers le mieux. C'est un petit peu le moins pire, c'est la politique du moins pire. C'est aussi le cas le plus favorable de l'obéissance. On peut aussi être forcé à obéir. Et là, le glissement entre l'obéissance passive et l'obéissance active, où on est forcé, devient extrêmement subtil. Et à travers les mutineries se joue finalement la révélation de ce que c'est cette obéissance, qu'elle révèle que finalement la brutalité à travers sa répression de l'exercice du pouvoir qui nous pousse à obéir. Et cet exercice du pouvoir qui nous pousse à obéir nous pousse tellement à obéir qu'il est prêt à user de la violence pour nous faire obéir. Alors pour terminer, un cas intéressant, peut-être très, très connu, bon certainement le plus remâché, c'est l'expérience un peu de psychologie sociale de Milgram sur l'obéissance individuelle. Il y a une expérience à Stanford en 71, un peu à la même époque, qui est intéressant, ce qui révèle à la fois les mécanismes de l'obéissance et puis aussi comment on se saisit, comment s'immisce plutôt dans ces mécanismes la rébellion, l'acte de résistance. Alors 71, Stanford, université américaine, vous prenez 18 personnes, vous en faites 9 gardiens, un certain nombre de gardiens, un certain nombre de détenus, et vous les mettez pendant 2 semaines dans une prison factice. À la tête de ça, vous mettez un universitaire qui pilote le tout et qui fera visiter cet endroit à différents étudiants, profs, experts, de façon à ce qu'ils constatent un peu comment se déroule cette expérience vivante. Alors, bon, cette expérience est très mal passée. D'une part, elle ne durera que 6 jours au lieu des 15 prévus, puisque finalement, il y a une sorte de perte de contrôle de l'expérience qui a dépassé largement son inspirateur. On retrouve dans un premier temps une phase de rébellion. des prisonniers qui s'organisent de façon à être se rebeller contre les conditions imposées par les gardiens, hein, ces gardiens factices, mais qui assumaient très bien leur nouveau rôle. Et se sont donc rebellés, et puis ils ont été extrêmement réprimés avec des stratégies qui vont de l'isolement à des stratégies plus sadiques de punition. Et petit à petit, les résistants se sont fait plus individuels. On voit le glissement du collectif à l'individu, avec une possibilité de résistance certainement moins impactante, avec notamment des stratégies autour de la grève de la faim. Et tout cela, finalement, s'est arrêté assez brutalement, puisque de fait, la répression devenait de plus en plus dure, avec un caractère sadique avéré. Et donc, au bout de 6 jours, il a été mis fin à cette expérience. Et il faut savoir que c'est intéressant, parce que ça donne bien vraiment le contexte aussi de la prison. Sur les 50 personnes qui ont visité cette prison factice, il y en a qu'une qui a dénoncé les conditions d'expérience, alors que ça avait déjà pris une sérieuse dérive. Ça montre aussi la passivité de l'environnement face à l'existence de la situation carcérale, qu'elle soit factice ou qu'elle soit réelle, comme on peut la vivre en France et partout dans le monde. On voit donc qu'à travers la prison se joue bien finalement l'enjeu principal de la discipline, hein, qui prend vraiment un relief particulier en prison, c'est celui de casser le collectif, hein, de créer la peur, avoir peur, de créer l'arbitraire. On ne sait jamais ce qui nous arrivera et quand, finalement, pour nous rendre extrêmement passifs. Et dans ce cadre-là, la mutinerie est certainement un acte de bonne santé qu'il convient de célébrer.
C'est intéressant ce que tu disais, parce que du coup, là, tu évoques l'expérience de Milgram et celle de, j'ai oublié le nom,
Stanford,
qui du coup, et je trouve assez en écho avec celle dont moi j'ai évoqué, dont j'ai parlé, qui est celle de Ian Robbins, qui en fait font, les trois en fait sont dans cette logique là et dans les mêmes continuités, que à partir du moment où on est pris dans une ce qu'on peut appeler une institution totale, enfin en tout cas c'est ce que Goffman, enfin je veux dire, il n'y a pas besoin d'être du coup anticarcéral, dans des positionnements anticarcérales pour avoir pu, enfin il y a aussi à des moments des intellectuels qui ont pu et en l'occurrence Goffman c'est quand même un sociologue qui ont pu aussi amener en tout cas des analyses des institutions, et qu'en l'occurrence la prison il le considère comme une institution totale. Toutes ces expériences là elles montrent que finalement dans une institution totale, les individus n'ont d'autre choix que d'être soumis à cette autorité considérée comme légitime, puisque en fait c'est aussi ça qui est dans l'expérience de Milgram ou de Stanford, c'est-à-dire qu'il y a à un moment donné une autorité légitime qui est celle du scientifique ou celle des matons désignés, et que cette violence légitime, elle finit toujours par déraper sur du sadisme et la violence à l'excès. Et de l'autre côté, du coup, justement, cette fameuse tendance à se soumettre à la suggestion, c'est-à-dire à ce qu'une autorité au-dessus viendra, induira à autrui. Et voilà ce que c'est que la prison, voilà ce que c'est que le système carcéral. Enfin, on oublie quand même souvent de nos jours de rappeler que la prison, c'est pas juste des prisonniers qui ont commis un délit et qui du coup payent leur dette à la société et qui sont mis dans des cellules soi-disant dans des conditions humaines ou respectant les droits de l'homme. C'est aussi un système d'organisation sociale et de domination et d'enfermement des individus qui pousse à la violence et qui de fait est de toute façon je trouve l'expression d'une violence sur l'individu. Bon, il est d'accord avec moi, c'est merveilleux.
Donc, je suis d'accord avec toi.
Donc nous allons écouter un morceau de Singe des rues, À bout de nerfs.
Ok, Singe des rues 2013, y'a plus le temps. Parce qu'on n'a pas le choix des armes, parce que c'est le taf ou la tôle, parce qu'on y passe tous plus le temps. Déjà 8 piges, depuis le premier opus, un coup d'œil par-dessus l'époque, paye ton vertige. 2005, santé l'essence, 2013, attend l'incendie. Les tempes et les cernes se creusent en temps de crise. Mental en dents de scie, les dos se resserrent. Des prolétaires bâtissent des tôles, leurs gosses y tapent des allers-retours. Et y'a plus de taf dans la zone. Dresser les uns contre les autres, compète à tous les étages. Un sale temps pour les sales pauvres.
Les sans-papes et les muslims, les manouches, tous les français de peau. La même rancaine, les mêmes conquêtes sur le bon vieux thème, d'un qui la faute. Pareil que c'est le printemps des faces, c'est l'heure d'arroser leur drapeau. La France des pavillons, les nazis ont la délation 2.0. Les fils de pétain s'affichent, y'a v'là les blettes dans ce pays de l'âge qu'ont des ailleurs de vie shift. À qui profite la crise et qui la paye, hein? Bah comme d'hab, les miens et les miennes, à gaspiller leurs plus belles années, à grappiller les miettes. Ce monde carbure à notre sang et nos peines. On obéit la peur au bide et on se fait taxer de parasites par des vampires obèses. Des pompiers pyromanes qui osent encore t'appeler à l'aide et tâchent de nous faire passer pour des clochards aux poches pleines. Porsche, Porsche. Dans le fond, je pisse toujours pas comment ils font, mais j'ai une piste, on est isolé dans nos douleurs, la colère sous muselière. Un qui va me fissimole au pôle emploi, ça traumatise que la guiche tière. Il pleut des corps à France Télécom, on t'harcèle pour un salaire et t'incarcère pour que dalle. Nos couleurs nous divisent, nos paires de couilles, nos ovaires. Des idoles, des djekas, des histoires de terre-terre. C'est pas les porcs que ça bouleverse, hein. Quand les gamins s'entretuent pour des business ou des bouts de terre. Combien de temps ça peut tenir à bout de nerfs? À bouffer de la merde, à étouffer les presses sous des kilos de neige. Il paraît que c'est la crise, frérot, fais un effort. Tout le monde est attendu au front. Les pauvres joueront la chair à canon comme d'hab. En attendant, ça tourne en rond et fait les 100 pas comme en promenade. Gate, la fin du monde en direct aux 20h. Marde, baisser la tête, encaisser les coups et serrer la ceinture. Chaque mois, la même galère, le même couplet. Interdit bancaire, CV bloqué, on connaît ça par cœur. Ok, passons, toujours la même merde, passons. RS, rien ne s'arrange, rester assis là, j'ai passé l'âge. À la cave, besoin des allocs, mais ça parle mal. Tu mords la langue et serres les poings à devenir barge. Rien qu'on danse sur le fil entre carnage et calmant. C'est la dalle, il faut bien grailler, non. Les plus chanceux tiennent la caisse à Lidl quand d'autres y montent au braco et se font des sauts pour 2-3 billets de sang. Le bide imbibé et de seum, on tire nos destins, la courte peine. Les portes sont fermées, l'ascenseur social en panne. Tous coincés au sous-sol, à compter son bénéf en scred ou à pointer à l'usine. Plus ça avance, plus on est seul. Plus on se divise, les peines et les années s'accumulent au fond des casiers. Alors c'est ça, bon qu'à se préparer au pire, tout en esquivant la chute. Payer le baveux, éviter le cachot. Du petit confort à la liberté, tout s'achète. Même une partie de la paix sociale, son monnaie en cash et en petit sachet. Alors ça part au quart de tour, la marmaille se rebelle, attaque un quart de tour. Et c'était la tribune présidentielle. Pendant que les actes, tu parles de parachutes dorés, de tubes planqués en Suisse. En bas des portes tortures dans l'ombre des cellules assises. Bah ouais, faut qu'on s'unisse comme les Wolves de Place Gezi. Fenerbahçe, Beşiktaş à la guerre de classe comme à la guerre. Même si c'est le pot de terre et le pot de fer. Combien de temps ça peut tenir à bout de nerfs? À bouffer de la merde, à étouffer les presses sous des kilos de neige. Combien de temps ça peut tenir?
2013, y'a plus le temps.
Crève la tôle, vit l'instant.
Majeur en l'air face à l'état de ceux qui se lèvent en insultant.
L'émission, on va à présent faire une sorte de chronique littéraire. Donc on va revenir sur Chronique de Youve derrière les barreaux. Donc pour présenter rapidement cette chronique, c'est des chroniques qui sont apparues sur Facebook. La première est apparue le 16 août, enfin a été publiée du coup le 16 août 2011. Donc sous le nom de Chronique de Youve derrière les barreaux. Elle a été censurée en novembre 2011 et une nouvelle page Facebook derrière a émergé pour continuer à écrire ces petits jets de plumes, on va dire. Donc dernièrement, elles ont été publiées par les éditions antisociales sous la forme de petites brochures. Donc il y en a 5, si je dis pas de bêtises, ou 6. Bah, c'est assez conséquent finalement ce qui a été écrit. Peut-être si je présentais ce que sont ces chroniques, ça pourrait aider pour comprendre. Donc en fait, Chronique de Youf derrière les barreaux, c'est Oumar, enfin en tout cas c'est tel ainsi qu'il s'est nommé dans ses chroniques, qui est âgé de 28 ans et qui purge une peine de 8 ans, enfin au moment où il écrit, il en est à sa 8e année, pour un vol à main armée. Et donc voilà, donc en fait dans ses chroniques, il raconte le quotidien carcéral avec des choses plus ou moins anecdotiques, des choses des fois qui sont amusantes, des choses qui sont des fois aussi très intéressantes. Et donc voilà, donc ces chroniques-là ont été publiées sous forme de brochures aux éditions antisociales et elles sont commandables ou téléchargeables par internet, hein, à nouveau, c'est devenu un outil incontournable. Du coup directement sur le site des éditions antisociales. Voilà.
Et à propos d'internet, vous pouvez retrouver l'émission donc sur un blog, hein. Vous pouvez télécharger chacune des émissions.
Alors là, on parle des émissions Les Murs. Hein.
Oui, Les Murs, hein, bien sûr, à propos d'internet, donc sur Les Murs, donc vous pouvez trouver ça sur donc quelques jours après donc chaque émission, et vous retrouverez les anciennes émissions donc sur un blog qui s'appelle Les Murs ont des oreilles, hein, comme ça s'écrit, .noblogs, noblogs.org. Et Chronique de Youf,
nous en étions là, donc sur les aventures de Oumar en détention.
Et on reviendra après sur le portable en prison, une situation et un peu un point juridique, si on peut avoir le temps.
Si on a le temps, ouais.
Chronique de Youf, partie 8. Ça faisait plus de 2 ans que j'étais incarcéré à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. J'étais au grand quartier, le quartier des majeurs, fini le bâtiment jeune. J'avais 22 ans, mais je connaissais tout le monde. J'étais apprécié. En promenade, on pouvait trouver de tout. C'était la cour des miracles. Il y avait des fous qui ramassaient et mangeaient des mégots de clopes, des mecs qui parlaient tout seuls, et j'ai même entendu, lorsque j'étais au mitard, un mec qui s'est perdu dans la folie en direct. C'était la misère humaine dans tous les sens du terme. J'ai jamais su comment la société voulait faire ressortir un mec meilleur alors qu'il a purgé sa peine dans un tel lieu dégradant, qu'il a été humilié des milliers de fois, avec les fourrures corporelles à poil, sans plus aucune dignité. Fallait être fort pour surmonter tous ces sévices, brimades. Y a pas le choix. Soit tu en ressortais cassé ou renforcé. Peu de gens en ressortaient renforcés de la prison. J'étais tombé cette fois pour des grosses affaires de vol à main armée, prise d'otages, association de malfaiteurs en bande organisée. Je savais que je partais pour des années, que cette fois-ci, j'allais manger une peine de dinosaure, une peine à 2 chiffres. J'étais en cellule avec un mec de menthe. Je lui mettais des raclés à PES 2003, un jeu de foot sur PlayStation. Pompe, play, gamelle et bigot étaient notre quotidien dans 9 mètres carrés. Des privilégiés comparés à d'autres. La cellule était remplie à ras-bord de cantine, la nourriture. Les jeunes me respectaient parce que moi, je faisais pas de différence. Grand ou petit, tant qu'il était brave. La bravoure n'avait pas d'âge. Je faisais pas partie des grands qui prenaient les petits pour des clowns. Je savais que les petits d'aujourd'hui seraient les grands de demain. Mon co-détenu s'appelait Nina. Je savais pas d'où lui venait ce surnom. La cellule, c'était un cimetière télé. La télé fixée sur une barre en fer, fixée au mur, torticolis, tu attrapes si tu regardes trop. Fenêtre quadrillée, barreaux et grillages. Le ciel, tu le regardais derrière les barbelés. Mais avec le temps, s'y habitue. On n'y fait plus attention. Nos journées étaient réglées avec comme une boîte à musique. Le programme télé annonçait le moral de la semaine. Si c'était semaine Ligue des Champions, méchante semaine.
À cette époque, on recevait plein de parachutes. Des objets jetés par-dessus le mur de mecs de l'extérieur. Téléphone, shit, viande, même des médicaments. Les matons fermaient les yeux sur certains trafics. C'était la foire en cours de promenade. Il pleuvait des parachutes. Sur chaque parachute, il y avait des prénoms, le prénom du destinataire. Tout le monde, même le plus gros cassos, avait son téléphone. Ils ont même attrapé un jour, chez une nourrice, c'est-à-dire un gars qui garde les téléphones dans sa cellule, 9 téléphones. On avait ce qu'on voulait, c'était Chicago au temps d'Al Capone. Jusqu'au jour où un mec, qui s'est fait tabasser en promenade, décide de se venger et tente de se faire jeter en parachute un calibre. Et comme par hasard, le calibre n'atteint pas la cour de promenade, mais tombe au pied du maton. Fini la belle vie. Ils nous ont mis un filet pour prolonger la hauteur du mur. On avait tous la haine, plus de parachute. Le mec avait grillé la prison. Tout le monde voulait sa peau. Il a été transféré, c'était mieux pour ses fesses. Donc fallait que je trouve un autre moyen pour rentrer des téléphones. Il y a eu une idée. C'était de creuser un double fond dans des chaussures et d'y mettre le tel. J'en parle à mon pote dehors qui me fait la paire de chaussures et pour la rentrée, je demande à un mec de me rentrer des chaussures au parloir. Mais bien évidemment, sans lui avertir de la présence des téléphones. Il accepte. Mon poteau dépose les pompes chez le mec. Le jour où j'ai eu le parloir, c'était suspense. Dans la cellule, Nina et moi étions tout excités parce que si ça passait, c'était le bon plan. 16h, retour du parloir, bingo, c'était passé. On était heureux, ça avait marché. Jusqu'à aujourd'hui, le mec ne sait toujours pas qu'il avait deux téléphones dans ses pompes. Mon frère Muse, qui m'aimait bien, m'a parlé d'une cachette en or. C'était sous les carreaux du carrelage. On creusait un trou sous le carrelage à la cuillère. On a mis 15 jours à faire un trou de la taille d'une boîte d'allumettes. Et on recollait le trou avec du dentifrice pour que l'illusion soit parfaite. On amenait du sable de la promenade pour boucher les trous. On a été fouillé au moins 40 fois de fond en comble, mais rien. Les matons ne voyaient que du feu. Tellement on avait pris la confiance, de 1, on est passé à 3 téléphones dans la planque. On était sûr à 100% qu'ils trouveraient rien. Donc, ils pouvaient fouiller tant qu'ils voulaient, mais ils avaient un indicateur fiable qui leur disait que « c'est sûr, j'avais un téléphone ». Donc les matons lâchaient pas l'affaire, ces enfoirés c'était leur taf. Donc, ils nous fouillaient sans relâche, ça les occupait.
Une nuit, vers 23h, 8 matons essayaient d'ouvrir la porte de la cellule, mais ils avaient du mal parce qu'on avait bloqué la porte avec des briquets. J'ai juste eu le temps de mettre le téléphone enroulé à une serviette avec un nœud que j'ai jeté sous ma fenêtre. Pile poil, la porte s'ouvre. Le maton, fouille, bougez pas. Moi, qu'est-ce qui se passe, vous avez craqué ou quoi? Le maton, où est le téléphone? Moi, vous êtes de grands malades, il n'y a pas de téléphone, il n'y en a jamais eu, vous pouvez fouiller. Il fracasse la cellule. Tchernobyl. La nourriture en miettes. La sape par terre. Des vrais chiens. Mais j'étais content. Ils n'avaient rien trouvé. Dès qu'ils sont partis, j'ai attaché à l'extrémité d'un yo-yo une fourchette dont j'avais replié les dents en crochet pour qu'il me serve d'hameçon. J'ai repêché la serviette avec le téléphone qui était sous ma fenêtre. Cette nuit-là était mouvementée, mais elle finit bien. Un samedi, alors que je rentre du parloir, je vois ma porte grande ouverte. Le directeur et tous les chefs devant ma cellule. J'avais compris qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. J'ai jamais compris comment ils les avaient trouvés. Mais bon, on les a bien fait danser pendant un an. J'ai pris les 3 téléphones sur mes côtes. Je blanchis totalement mon codétenu. Il n'y était pour rien. J'ai écopé de 45 jours de mitard.
Donc voilà, ces chroniques de Youf, c'est des petites vignettes comme ça qui parlent du quotidien et des fois du côté banal du quotidien qui finalement, enfin lui paraît banal et en même temps... Et loin de l'être, enfin, parce que c'est aussi le jeu du chat et de la souris avec les matons, avec les règles et comment, du coup, de petites choses en petites choses, on essaye de survivre à l'intérieur. Et donc, du coup, en fait, cette question du portable, c'était l'occasion et le prétexte de parler un peu de la partie légale du portable en prison. Et pour ça, on a choisi de s'appuyer sur le guide à l'usage des proches de personnes incarcérées, dont on a parlé à l'émission précédente, et donc qui a été rédigé par Soledad et Associés. Et donc voilà que le guide dit à propos des portables en prison. La possession de portable est interdite en détention. En cas de découverte, la personne risque généralement le placement au mitard, voire le passage au tribunal. Une partie des portables sont passés au parloir. Ne faites pas ça à la légère et pas sans l'accord du détenu. Renseignez-vous si le portable est susceptible de déclencher le portique. Placez-le dans une poche de votre vêtement afin de pouvoir prétendre que vous l'avez oublié. Une fois dans le parloir, vous ne risquez plus grand-chose, car votre proche peut affirmer l'avoir trouvé là. Le plus compliqué n'est pas forcément de le faire parvenir au détenu, mais bien plus souvent, pour le détenu de le faire parvenir jusqu'à la détention. Il est préférable, en cas de saisie du portable et ou de la carte SIM, que ni l'un ni l'autre n'ait déjà servi auparavant. Sachez que la paix et la justice ont intérêt à ce que des portables circulent. Certains sont écoutés et ils sont des sources fiables et faciles d'information, surtout s'ils servent à plusieurs détenus. Si vous recevez des appels en dehors des heures d'accès au téléphone en détention, vous pourrez difficilement faire admettre que vous n'étiez pas au courant. Le mieux est de donner un rendez-vous dans une cabine et d'éviter de faire savoir, par exemple sur Facebook, que vous appelez votre proche tous les soirs.
Eh bien, c'est la fin de l'émission, donc les murs ont des oreilles. Hein. Je vous rappelle la boîte postale pour nous écrire si vous souhaitez nous faire parvenir du courrier. Donc les murs ont des oreilles, Radio Kaléidoscope, boîte postale 422 38 018 Grenoble CEDEX. Il est possible aussi de nous contacter par mail à l'adresse lesmurs, L-E-S-M-U-R-S, @riseup.net, R-I-S-E-U-P.net, ou bien, et puis de télécharger l'émission, donc les émissions, donc cette émission-ci, hein, d'ici quelques jours, ou les émissions passées, sur lesmurs-ont-des-oreilles.noblogs, noblogs.org. Voilà, et bien, donc à dans un mois. Donc.
Au mois prochain, on n'a évidemment pas pensé à regarder sur un agenda quelle date ça faisait, mais c'est le troisième mercredi de chaque mois à 19h jusqu'à 20h sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Bonne soirée.
Bonsoir.
J'en ai parfaitement conscience, j'ai de la chance lorsque je pense à ce que certains endurent. Que se plaindre est une offense quand t'as la peau du ventre bien tendue. Y'a pas de quoi crier vengeance, j'ai juste changé d'école. Je n'ai pas passé mon enfance à devoir enjamber des corps. Je n'ai vu personne se faire exterminer, hormis sur un tout petit écran. Ma famille se faire tuer et puis n'entendre que le soupir des anges. Ma dignité humaine se voir sauvagement dégradée, contraint de naître l'esclave sexuel de pervers détraqué. L'objet de quelques sous-hommes, leur complexe et leur pulsation, et ne former rien d'autre que le réceptacle de la frustration. Non, je n'ai pas su vivre tout cela et souvent j'en ai honte. J'ai bien peur qu'au final ce soit à genoux que j'en rendrai compte. Je ne risque pas la pendaison pour m'être exprimé librement. Je passe mes coups de gueule, peut-être un brin trop égoïstement. En quelques textes je tiens le cap et tente de me restaurer les crocs que je perds. Ailleurs pour moins que ça je me serais fait sectionner les paupières. Putain mais pourquoi moi frère, d'où me viennent ces privilèges? Pourquoi n'ai-je que le cul dans le peur quand d'autres siègent dans le frigidaire? Pourquoi ai-je hérité de ce bien sans même l'avoir mérité? Car je me plains permanent. Et tous les soirs je m'endors terrifié. J'ai tout ce qu'il me faut, qu'il ne me manque que des poussières. Ah, alors pourquoi est-ce tellement difficile d'être heureux? Que comparé à d'autres, il semble que les anges me soutiennent. Hein? Alors pourquoi est-ce tellement difficile d'être heureux? Ailleurs y'a mille fois pire que moi. Comment prétendre que j'ai souffert? Là rien que de m'entendre, l'envie me prend de planquer sous terre. Et s'il est vrai que dans ce pays on vit, on peut. Alors pourquoi? Je ne parviens pas à trouver le bonheur dans cet tas de manques. Je cherche la route à suivre, à quoi ça peut me servir que je m'offre une putain de voiture allemande? Ce n'est pas un BMW série 57 ou un GPS qui m'indiquera ce foutu chemin de la paix intérieure. C'est flagrant, c'est vrai que j'ai une belle montre, toute fashion sous le cadran, qui ne s'arrête pas de me rappeler toutes les heures que je n'ai pas le temps. On me dit que j'ai de la chance, qu'au moins je suis libre de mes gestes lavages. Avec leur cul, je dirais plutôt que j'ai pu choisir mon esclavage. École, travail, mort, existence à taux variable. Mes chaînes sont invisibles, elles s'appelle finance actionnariale. On cherche que de la maille. Combien préfère connaître les flammes de l'enfer que de croiser le spectre de la faillite. Jack, ouais, c'est très simple, tu veux te rendre indispensable. Être un homme bien, ça ne sert à rien. Avant toute chose, il faut être rentable. Tout ça ne convient pas, ça me fait pousser les cris de l'âme. Tu crois que la seule protection que cherche, c'est un bouclier fiscal? Tu crois que je kiffe ça, d'accepter de vivre bien mais sans être? Puisqu'on dispose que tous les accessoires, mais presque rien d'essentiel. Tu crois que ça me plaît de me plaindre autant de la couleur de ma vie? Je n'ai pas choisi mon contexte. Et chaque couleur n'est que relatrice. Ici j'ai tout ce qu'il me faut, qu'il ne me manque que des poussières. Ah, alors pourquoi est-ce tellement difficile d'être heureux? Que comparé à d'autres, il semble que les anges me soutiennent. Hein? Alors pourquoi est-ce tellement difficile d'être heureux? Ailleurs y'a mille fois pire que moi. Comment prétendre que j'ai souffert? Là rien que de m'entendre, l'envie me prend de planquer sous terre. Et s'il est vrai que dans ce pays on vit, on peut. Alors pourquoi? Alors pourquoi? Au fond je crois qu'il me faut mourir une fois avant ma propre mort. M'ouvrir aux évidences de notre sort. Il me faut mourir une fois avant ma propre mort. Que je puisse me détacher de tout ce qui fait le propre de l'homme. Il me faut mourir une fois avant nos propres morts. Sourire pour autre chose qu'une offre d'or. Il me faut mourir une fois avant nos propres morts. Qu'on puisse se détacher de tout ce qui fait le propre de l'homme. Ouais, au fond je sens qu'il me faut mourir au moins une fois de mon vivant avant ma propre mort. pour enfin réapprendre à vivre en paix, me satisfaire sans réticence de mon propre sort. Faire abstraction de mes cicatrices, emporter dans cette première mort toute forme d'ego et de caprice. Pour trouver le bonheur, il faut que j'en fasse une tentative. Je dois mourir avant ma mort pour enfin réapprendre à vivre.